toujours content de parler d'éducation, puis aussi d'être capable des fois d'en parler avec des personnes avec qui on peut avoir des divergences d'opinion. La dernière fois, la première fois qu'il venait en studio, je pense que autant lui que nous, on avait apprécié l'échange, les auditeurs avaient apprécié aussi. Je trouve que c'est, je vais te faire une confidence, Jérôme, je trouve que c'est le dirigeant syndical qui a l'air le plus sympathique puis le plus parlant.
Ah, j'aimais bien Régent Parent à l'époque aussi.
Moi. Non, mais en ce moment, là. Magali Picard, je te l'ai dit cette semaine, je la trouve très, très bonne, très,
mais
très,
écoute,
très
efficace. Moi, je suis, sérieusement, je vais le dire avant l'entrevue, je suis derrière les syndicats pour la négociation actuelle. Je suis en faveur des... Mais tu sais, le gouvernement a raison sur certains points, la réorganisation du travail. Mais j'ai le goût d'être un peu cheerleader des syndicats cette fois-ci, moi.
Il est le président de la centrale des syndicats du Québec, la CSQ, Éric Gingras, qui est en studio avec nous. Monsieur Gingras, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Content de vous recevoir à nouveau.
Ça fait plaisir.
Avant de parler des négos et tout ça, je veux qu'on parle de la rentrée scolaire. Je suis amèrement déçu d'à quel point, collectivement, on est passé à d'autres choses. Il y a eu une ministre, puis les fédérations d'établissements, puis je pense que les syndicats aussi, tout le monde disait, là, quelques jours avant la rentrée, ça va être épouvantable, il va nous manquer 8000 profs. Puis là, finalement, au moment de la rentrée, la semaine de la rentrée, on dit, oh, il en manque, je pense que c'était 1500. Il en manque toujours bien 1500. On n'a aucune idée de comment les 7000 autres postes ont été comblés, à quel point il y a des enseignants qui sont non légalement qualifiés, tout ça, mais c'est comme si... On est passé à d'autres choses. T'sais, je regardais le sondage Somme le Soleil cette semaine sur les priorités des gens. 40% la santé. Tabarouette, l'éducation arrive loin, 14%. T'sais, ça dit quoi tout ça, cette dynamique-là, sur l'importance qu'on accorde réellement à l'éducation au Québec?
Ben, c'est certain, dans une population peut-être vieillissante, la santé devient la priorité. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, si j'ai pas d'enfants, l'éducation va être reléguée fort probablement second, voire troisième après l'inflation. Donc, il y a peut-être de ça. Puis l'autre bout aussi, c'est que les chiffres étaient très gros, hein. On était 8500, puis là, bon. Mais on savait, là. Puis moi, dans mes entrevues que j'ai fait à ce moment-là, je disais, c'est un enjeu important, mais à la fin, il y a beaucoup de choses qui vont se résorber. Par contre, il y a deux choses. Il y a le fait que ça sera pas complètement, puis on le voit, là, on est à 1000 quelques.
Mais c'est énorme.
Et c'est énorme. Mais à la fin, est-ce qu'on le sent dans les milieux? Moi, ce que j'aurais tendance à dire, est-ce que les parents qui rentrent dans une école sentent qu'il manque du personnel? Fort probablement qu'au quotidien, ils vont vous dire non. Parce que tout le monde va pallier. Puis les deux enjeux, c'est que ça se fait pas à n'importe quel prix. Et c'est là qu'on perd du monde et que ça crée encore plus de problèmes l'année suivante. Et il est là l'enjeu. Parce que le parent, là, est-ce que son jeune est en sécurité à l'école? Est-ce qu'il va avoir du personnel? Oui, parce qu'ils vont s'assurer de pouvoir le faire. Mais l'enjeu, là, c'est qu'au mois d'octobre, au mois de novembre, il y a du monde qui vont tomber au combat. Il y a du monde qui, des non légalement qualifiés, qui vont dire, oh, c'est pas pour moi, je vais quitter. Alors là, la roue tourne, puis on va se revoir. Alors c'est pour ça, à chaque fois, quand on parle de négo, on dit, ah, il faut donner un coup de barre, là. Puis là, on n'a pas le temps de niaiser. Et négocions, arrivons à des règlements, puis oui, des règlements qui vont satisfaire le personnel qui est là, parce que on veut les garder. Les employeurs, là, du privé ou ailleurs, là, ils s'occupent de conditions de travail pour s'assurer que les gens sont bien, puis ils restent, puis ils vont pas ailleurs. Après ça, ben, il faudrait le faire rapidement.
Mais juste avant de parler de négo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, bien mais sûr. Concernant la pénurie, est-ce que les syndicats sont pas un peu responsables de ça? Dans le sens où, tu écoutes depuis des années José Scalabrini, puis Sylvain Mallette, puis quand tu les entends, ça a donc bien l'air pénible d'être professeur, pis c'est donc bien pas drôle, puis ça va donc bien mal. Est-ce que ça a pas découragé, contribué à décourager un peu les étudiants du collégial, les étudiants d'enseignement, ce discours-là?
C'est sûr que c'est un couteau à deux tranchants. Ma collègue José rapporte ce qui se passe dans les milieux.
Ouais.
Moi, en conférence de presse, on fait toujours une conférence de presse en début d'année, on le fait en 2023, puis je disais, hey, ça serait fun cette année-là de parler de ce qui est positif.
Mm-hmm.
Sauf que le problème, c'est regarder ce qui se passe à la rentrée, là. Difficile de trouver à grande échelle du positif. Par contre, si vous allez dans les milieux, puis c'est souvent pas ce qu'on fait, écoute, il se fait tellement de belles choses, de beaux projets, puis les gens sont là. Puis moi, je disais en entrevue, à la rentrée, je disais, écoutez, c'est sûr qu'il manque 8000, puis c'est sûr que ça n'a pas de bon sens, puis la négo, puis tout ça. Mais tout le monde va le sourire parce que tout le monde est content. Mais madame, monsieur qui sont là puis qui font le travail, même chose pour les parents qui reçoivent aussi les appels puis les courriels, vont avoir de l'information puis vont avoir des choses qui sont intéressantes. Mais de façon plus importante, il y a 5 ans qu'on disait que la pénurie s'en venait, mais qu'on avait un ministre de l'Éducation, M. Roberge, qui disait « c'est pas vraiment une pénurie, là, c'est une rareté ». Donc, c'est pas la même chose. Ben oui, on chiolait. Puis on levait la main pour dire, non, non, mais il y en a une pénurie, là. Puis oui, présentement, c'est quelques endroits, mais elle s'en vient partout. Puis là, bang, ça arrive. Alors, on n'a pas le choix de dire ce qui se passe, mais en même temps, et ça, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit la dernière fois quand je suis venu ici, il y a des moments où on peut aussi dire que les choses vont bien, puis mais présentement, c'est pas ce qui se passe dans
le
réseau.
Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée entre vous et nous. C'est-à-dire que moi, je pense, bon, c'est un peu aussi, c'est votre pain, votre beurre, de dénoncer ce qui fonctionne pas, mais je pense que les syndicats devraient davantage valoriser la profession. Puis à l'autre bout, ben nous autres, faut aussi qu'on soit capable de parler de ce qui est positif là, parce que bon, dans les médias, des fois, good news is no news là, tu sais, fait qu'il faut être aussi capable de parler de ce qui est positif.
Sauf que la réalité depuis peut-être une décennie, c'est que ça s'en va en baissant. Il y a eu énormément de coupures. Moi, j'ai toujours dit que les résultats de ce qu'on a là, et je disais, c'est pas la faute au ministre Drainville, le passé là, c'est pas lui qui l'a créé ça. C'est des mauvais choix politiques, des coupures. Après ça, on a l'ancien ministre des Finances, Letao, qui dit « Ben non, on n'aurait pas dû faire ça. » OK. Mais là, maintenant, le ministre de l'Éducation, lui, sa responsabilité, c'est le futur. Alors, et le futur, ça passe par beaucoup de décisions, dont celle des négociations, de celle de s'occuper du monde aussi, qui sont là pour les ramener puis les garder.
Un autre enjeu à régler avant de parler des négociations, les toilettes mixtes. C'est-tu vraiment un enjeu, ça, dans les écoles? Moi, je suis un peu découragé, je vous avoue, depuis 48 heures. Pour moi, c'est pas un enjeu important actuellement.
C'est l'identité de genre.
C'est des enjeux un peu personnels, je pense, pour les gens qui vivent cette situation-là. Puis je pense que oui, les écoles doivent être à l'écoute de ça. Mais en même temps, c'est pas vrai que c'est l'enjeu numéro un dans les écoles, j'espère.
Non, c'est clair, c'est pas l'enjeu, mais il y a des endroits où ils le vivent, parce qu'il y a des jeunes qui ont ces réalités-là, qui vivent ces réalités-là. Donc, il faut avoir des réponses à leur donner. On est très à l'aise avec le commentaire du ministre qui disait, ben, ça en prend, là, quand même, pour qu'il y ait des endroits. Et là, on apprend, parce qu'on dit ça à court terme, c'est intéressant, mais il faut avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on donne, là, parce que on veut pas avoir, justement, des endroits qui pourrait ne pas faire les bons choix, et d'avoir la discussion qui continue, notamment, là, il a annoncé qu'il allait avoir un groupe.
Un comité de sages.
Une excellente idée, ça. Continuons la discussion, parce qu'il y a des jeunes qui vivent ces réalités-là. Est-ce que c'est majoritaire? La réponse, c'est non. Puis, ça existait avant aussi, là, des endroits comme ça, parce qu'il y avait, il y a des réalités.
C'est comment ça se passe dans les écoles actuellement, là?
Dans les milieux, on a beaucoup d'exemples où il y aura une toilette qui est non genré, pour utiliser les termes, qui est souvent une toilette où le personnel y va, etc., etc. Donc, au lieu de stigmatiser, c'est disponible. Puis ça se fait sans crier gare, là, sans le publiciser, parce qu'il y a une réalité dans cette école-là, puis on le vit, puis on trouve des solutions. Là, l'enjeu, c'est pouvons-nous, comme société, avoir la réflexion pour s'assurer de prendre les meilleures décisions. Mais à savoir, est-ce que c'est une priorité pour, à certains endroits, d'avoir la réflexion à court terme, oui, parce qu'ils le vivent.
Ouais.
Il y a des jeunes. Mais comme société...
C'est pas théorique, il y a des enjeux.
C'est sûr, exactement. C'est pas théorique, c'est le vivent. Par contre, continuons la discussion. Puis bien content de voir que là, on a voulu apaiser le tout. Parce qu'après ça, ben, il y a des milieux où il faut pas stigmatiser. Parce que ça se vit présentement. Puis c'est pas juste théorique. Comme peut-être la majorité des endroits.
Là. OK, parlons de la négo. Parce que ça va être très, très, très important au cours de l'automne. On sent que ça va chauffer. C'est souvent très peu concret ou digestible pour les gens qui suivent ça, les pourcentages, les ci, les ça. Si vous étiez derrière des portes closes, là, assis devant Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, puis vous aviez à lui dire, garde, donne-nous ça, puis on va signer. Qu'est-ce que ça prend?
Ben, à la base, ça prend des salaires qui vont être compétitifs avec le privé, puis les autres secteurs. Ça déjà, puis on est à la traîne. On est à la traîne dans le secteur public, peu importe, que ce soit en éducation, en santé, au collégial. Quand on offre le 9 % sur 5 ans, il n'y a pas personne dans le privé qui offre ça présentement. Là.
Pourquoi ils disent 11 points quelques?
C'est ça. Et là, c'est ça souvent le problème. C'est que là, on fait une guerre de chiffres.
C'est là qu'on débat.
Ben, public. Alors que il offre 9 % ça, c'est salarial. Pur, dur, sur une convention collective. Après ça, ils se gardent un autre 2,5% pour dire, on va être capable de bonifier certains salaires à certains endroits. Puis là, après ça, ils nous demandent des trucs. Après
êtes-vous favorable aux offres différenciées?
Les offres différenciées...
Parce que ça, les syndicats, normalement, ils n'aiment pas trop ça.
Mais je vais vous donner un exemple de pourquoi c'est difficile d'être en accord avec ça. Est-ce qu'il peut y avoir certaines primes? On les a acceptées à certains endroits. On entend santé pour des corps de nuit. Ou peut-être. Mais quand tu vises certaines catégorie d'emploi, c'est que c'est pas la réalité. Prenez la dernière ronde de négo, là. Prof, infirmière, préposé aux bénéficiaires. Mm-hmm. OK? Eux. Mais, puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a du monde autour, là. Puis la pénurie est aussi au monde autour. Fait que, si tu veux attirer du personnel, certains types de personnel, puis tu les vises, politiquement, ben, il y a du monde autour qui, eux, ne vont pas venir au travail, et les gens qui ont eu une augmentation vont toujours avoir un problème parce qu'ils n'auront pas de TES pour les aider, ils n'auront pas d'éducatrice, ils n'auront pas de psychologue parce que eux, ils n'ont pas été choisis dans le choix de qui va en avoir. Et c'est là qu'on décroche, nous autres, de notre côté. Oh, ouais. Parce que c'est pas ça, la réalité, là. Un prof, ça nous en prend un. Puis t'as besoin de l'éducatrice le matin à 7 heures qui va recevoir le jeune à l'école. T'as besoin du surveillant qui va surveiller le couloir parce que des fois c'est important dans une école secondaire. T'as besoin de après ça du TES qui va aider, de la psychologue qui va préférer être allée au privé parce qu'elle fait 30% de plus. Donc quand on parle de salaire différencié, il est là le danger. C'est pour ça qu'on dit ça prend des paramètres importants. Et à votre question, à savoir combien est-ce que ça prend, il faut protéger le pouvoir d'achat. Ça, c'est à la base. On ne peut pas sortir de cette négo-là dans le secteur public sans avoir des salaires qui viennent compenser l'inflation. Comme on offre, hein, CPQ, une organisation, Conseil du patronat du Québec, pas de gauche, Conseil du patronat qui dit qu'on parle de 4% d'augmentation pour 2023 dans le secteur privé.
Ouais, mais parlons des élus. Moi, je trouve qu'ils ont du front tout le tour de la tête de vous offrir 9% quand ils se sont donné 30. Et qui ont donné 21% aux policiers. En même temps, je pense qu'ils ont raison d'exiger peut-être une façon haute de réorganiser le travail. Y a-t-il des concessions sur l'ancienneté qui peuvent être faites? Je sais pas. Mais le 9% versus le 30 et le 21, là, c'est quoi le millage que vous pouvez faire avec ça? Parce que je sais qu'ils vous donneront pas 30, là, ça arrivera pas. On a tous compris ça, que c'est pas le même volume. Mais c'est quoi le millage entre les deux qui devrait être acceptable pour vous sur cette question-là? Moi, je vous le dis, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'il y ait eu l'arrogance de se donner ça.
Ben, prenons l'exemple de la Sûreté du Québec, les derniers. Est-ce qu'il le mérite? Fort probablement. Oui. Moi, je suis pas à dire qu'il ne le méritait pas. Nous devrions l'avoir. Pas ça du tout. Mais il y a des raisons. Et quand le ministre Girard, qui l'a négocié, dit, ben, on a négocié ça, puis on a donné 21. Pourquoi? Ben, pour favoriser l'attraction, la rétention, pour montrer qu'on est un bon employeur. C'est un très bon argument. Et c'est exactement nos arguments où nous autres, ce qu'on propose, c'est protection du pouvoir d'achat. Nous, on va encore plus loin dans notre demande où on dit, est-ce que ça pourrait être dans la convention collective? On s'obstine plus. Chaque mois de janvier, l'Institut de la statistique nous donne l'indice des prêts à la consommation, le taux d'inflation, et ça, d'habitude c'est autour de 2%, ça devient l'augmentation. Là, effectivement, on est dans une période difficile. Est-ce que à ce moment-là, ça serait 3,5, 4, 4,5? C'est pour ça qu'on nous demande de chiffrer, on ne l'a pas. Ça, c'est l'inflation. Après ça, est-ce qu'on demande un autre bout? La réponse, c'est oui, pour commencer à rattraper, parce qu'on est 9% en arrière de la moyenne de ce qui se fait dans les autres secteurs, tous secteurs confondus, et ce, même en incluant le fameux régime de retraite, là, qui, on devait être les gras durs, mais là, ça attire plus, là.
Je veux dire, ça, marche plus, ça.
Ben non.
C'est vrai que vous avez des belles caisses de retraite au public.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que les conditions sont belles, mais encore, ils poussent encore l'arrogance, je vais dire comme ça, de vouloir modifier les paramètres pour nous garder plus longtemps dans son offre qui est là, afin qu'on prenne pas notre retraite tout de suite. Donc, il veut changer les règles du jeu. Donc, là, ça va pas bien. T'offres pas le salaire. La seule affaire qui marchait un peu, qui marche de moins en moins, le régime de retraite, on veut le modifier pour t'obliger à rester plus longtemps. C'est ça qui est sur la table présentement.
Mettons, là, le pourcentage, là, dans vos demandes, est-ce qu'on peut en identifier, là, avec l'inflation, le rattrapage, là, vous êtes à combien de pourcents? C'est quoi l'écart?
Les analystes, OK, ceux qui analysent ça en fonction de la possible des taux d'inflation qui sont annoncés, on tournera autour de 21-22%. Là. C'est je devrais pas dire ça parce que c'est des taux qui sont prévus dans l'avenir, donc ils sont pas certains, mais moi quand on regarde les choses, quand les membres me le demandent, comme vous venez de le faire en disant ça tournerait autour de combien, mais ça pourrait être un petit peu plus en fonction de l'inflation.
Parce que ce que les gens ignorent peut-être là, dans une certaine proportion des gens qui nous écoutent, c'est qu'en ce moment vous êtes sur une convention collective qui vient à peu près juste d'être signée là, parce qu'elle avait été signée en retard. Le rattrapage avait été de combien de pourcents dans cette convention là?
La dernière convention collective, on a eu... Hey, là, vous me prenez avec un blanc. Là, je l'ai pas devant moi.
OK, mais quelques pourcents, j'imagine.
Oui, on était, je pense que la dernière augmentation tourne autour de 2%. Et là, mes collègues qui m'écoutent vont pas en revenir que je me souviens plus des chiffres, là. Mais,
ça, parce que j'ai vu le commentaire passer. À l'effet que si on additionne ce rattrapage-là de la précédente convention qui vient d'être signée, il y a quoi, même pas deux ans, plus, mettons, le 21-22%, vous demandez, dans le privé, le trois quarts des gens qui nous écoutent vont dire, non, mais j'ai pas eu ça, moi, là.
Oui, mais en mars dernier, on n'a pas eu d'augmentation, là. Parce que la convention est échue. Donc, la convention était venue à échéance le 31 mars. Habituellement, le 1er avril ou la 141e journée, là, tout dépendant de la catégorie d'emploi. Donc, autour du début avril, on a une augmentation. Là, on l'a pas obtenue. Donc, pour 2023, il n'y a pas d'augmentation qui a été octroyée. Et d'habitude, la manière que fonctionne le gouvernement, c'est qu'en janvier sort l'indice des prix à la consommation, donc le taux d'inflation, et l'applique pour l'année qui précède. Donc, nous, c'est ce qu'on demande. Mmh. Si le taux d'imposition dans les impôts que des particuliers, etc., tout est adapté en fonction du taux d'imposition qui arrive en janvier-février, on demande exactement la même chose. C'est pour cette raison-là que lorsque le gouvernement dit on a donné 9%, ça devrait régler, il oublie totalement les années passées, l'année dernière, donc comment on calcule le taux d'inflation habituellement. Puis là, ça devient une guerre de chiffres. C'est ça qui est malheureux. C'est que là, je suis en train de discuter avec vous, puis là, on va se perdre dans les chiffres. Alors que l'enjeu, c'est clairement, les membres, ils lèvent la main puis ils disent, écoutez, c'est pas vrai qu'à 2%, à 3%, alors qu'on offre 4% partout, on va... Puis là, après ça...
Vous avez tout à fait raison.
Puis là, après ça, on parle de conditions de travail. Là, on dit...
Ben, c'est ça, parce que c'est pas juste l'argent.
Ben non! Puis après ça, on dit réorganisation du travail.
Ouais, mais ça, faut en parler.
Flexibilité.
Ça, faut en parler, là, parce que Sonia Lebel en parle souvent dans les entrevues. Qu'est-ce que vous êtes prêt? Moi, je vous donnerai vos augmentations. Je serai un très mauvais négociateur pour le gouvernement, là. Mais qu'est-ce que vous donnez en retour? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en retour? L'ancienneté, remettez-vous ça en question. Êtes-vous d'accord avec la création d'un ordre professionnel? Parce que moi, j'aimerais ça monter vos salaires, mais j'aimerais ça que vous ayez aussi plus de comptes à rendre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner là-dessus, vous?
Ben, écoutez, il y a plusieurs éléments. Premièrement, sur ce que dit Mme Lebel concernant flexibilité, réorganisation, là où le bas blesse, c'est que ce qu'elle dit, c'est que ça va être difficile de mettre plus d'argent parce qu'il va falloir faire plus avec les gens qui sont là. Ça, c'est quelque chose qui marche plus, là. Parce que ça, faire plus, là, on vient de faire ça pendant les 10 ou 15 dernières années en coupant du monde, en faisant des choix politiques, en disant, rappelez-vous, là, 2005, entre 2005 puis 2015, le gouvernement Charest, après ça, il y a aussi le gouvernement libéral qui a dit, non, ça touchera pas les enfants, ça touchera pas le service aux élèves. La réalité, c'est que ça y touchait. Donc ça, on a fait ces choix-là. Maintenant, comme organisation, on est prêt à s'asseoir, on est prêt à regarder. Quand on parle d'aide à la classe, par exemple, hein, l'offre du gouvernement d'aide à la classe.
Êtes-vous favorable à ça?
Oui. La réponse, c'est oui. La CSQ, ces deux fédérations, autant du personnel de soutien et les enseignants, donc, qui sont touchés par ça, on dit que c'est une excellente idée. Ça règle pas tout. Mais ça, là, pour travailler ça, il va falloir qu'on revoie la réorganisation du travail. Alors, je réponds à votre question. Mais il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut que ça donne quelque chose. Il faut pas proposer de réorganiser le travail pour en mettre encore plus sur le dos.
OK. L'ordre professionnel.
L'ordre professionnel, présentement, ce qui se passe avec l'ordre professionnel, c'est que, et le ministre de l'Éducation l'a dit, tant qu'il n'y a pas de la volonté des membres, parce que c'est comme ça que d'habitude, on fonctionne avec l'ordre des professions, c'est que lorsqu'il n'y a pas de volonté des membres, ben on n'y va pas. Puis la volonté des membres n'est pas là.
Ouais, comment ça? Il me semble que ça valoriserait votre profession, justement, comme les avocats, les psychologues, les infirmières, les médecins.
Oui, mais il y a des différences. Hein? Un médecin va fermer la porte de son cabinet. Il n'y a pas de boss qui le regarde. Et il le regarde un à un, puis il doit rendre des comptes à qui? À l'ordre professionnel. Un prof, il rend des comptes au directeur, il rend des comptes au centre de service. Maintenant, il rend des comptes avec le projet de loi 23. Il va rendre des comptes directement au ministre. Donc,
c'est
ça.
Les parents, on aurait aussi
un rapport de force avec ça. Un protecteur de l'élève. Mmh. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Alors, je persiste à croire que... Et moi, j'avais déjà dit au ministre Roberge dans un débat qui était pro-ordre professionnel, M. Robert, j'avais déjà dit que si vous enlevez toutes les autres règles là, de la convention collective de gestion de personnel, puis tout, là, comme les médecins ont, justement, je suis prêt à jaser d'ordre professionnel. Mais c'est pas ça. Ils veulent juste en ajouter une couche. Puis là, c'est là que les profs disent, entre autres, disent, ben non, là, c'est assez. Là. Il y a, tantôt, on parlait d'autres priorités. Ben là, il y en a d'autres que simplement rajouter une autre couche administrative. Mmh. D'autant plus qu'on va quand même donner la chance aux coureurs aussi, aux protecteurs d'élèves, parce qu'on n'est pas contre ça non plus. Là. Il va falloir regarder qu'est-ce que ça va vouloir dire. Mais ça, c'est un bel exemple pour les parents. Mm-hmm. Il y a un protecteur de l'élève maintenant.
Il, il vient d'être nommé.
Ben, exactement. Donc, attendons. Attendons.
Jérôme a mentionné le mot ancienneté. Je trouve qu'on est passé vite à d'autres choses. Il semble que c'est quelque chose, ça, qui, historiquement, c'est pas quelque chose que les syndicats aiment aborder ou envisager. Je dis pas que la solution, la façon dont Bernard Drainville l'a amené en disant est-ce que les nouvelles enseignants, nouveaux enseignants pourraient aller en maternelle parce que c'est des classes, bon, peut-être un peu plus faciles, tout en reconnaissant les difficultés. Bon, je dis, mettons qu'il a pas été nécessairement habile, là. Il y a les syndicats qui dénoncent ça. Mais comment on fait pour assurer la rétention des jeunes enseignantes qui arrivent et qui repartent rapidement parce que trop souvent, en raison des principes d'ancienneté et tout ça, se voit confier les classes les plus difficiles à gérer. Est-ce que vous reconnaissez ce problème-là à la base? Là?
Ben, la reconnaissance de ce problème-là, je dois vous dire qu'il est beaucoup moindre que ce qu'on laisse entendre. Premièrement, parce que présentement, il y a un manque de profs. Donc, techniquement, si on adhère à ça, toutes les classes plus difficiles ne sont pas prises présentement. Là. C'est-à-dire que tout le monde aurait de belles classes présentement, puis les 8000 quelques profs qui manquaient auraient... Alors que c'est pas le cas. Okay? La réalité, là, c'est que dans la majorité des centres de services, on travaille pour avoir des tâches qui se ressemblent. Maintenant, donc, qui sont équitables. Maintenant, est-ce qu'on est ouvert à revoir l'ancienneté? Moi, je peux vous dire que dans beaucoup de syndicats affiliés, parce que les centres de services, donc, travaillent, vous savez comment fonctionne au Québec, c'est pas tout le ministre qui fait, mais les centres de services qui travaillent avec les tâches, puis les écoles, etc., ben, il y a des discussions, et bien souvent, moi je viens d'un syndicat local sur la rive sud de Montréal, où il y avait des discussions, puis des fois on dit « Ah, pour ce projet-là, on va faire une petite différence, ce sera pas juste l'ancienneté, il y aura d'autres critères. » Ça se fait présentement. Donc, est-ce que les syndicats sont pour ou contre? Ben, présentez-nous ce que vous voulez, on va regarder, mais ça sera pas un bar ouvert. Parce que l'ancienneté, puis ça là-dessus... on risque d'être on bougera pas ben.
Ouais,
c'est que l'ancienneté non mais l'ancienneté reste le moyen le moins arbitraire. Après ça, est-ce qu'il y a des façons de discuter pour trouver des façons, certains projets, certaines choses, certains enjeux, certains problèmes? La réponse est oui.
OK, mais là, l'état des négos, en êtes-vous rendu à parler de ça ou on n'est même pas rendu là? Puis mon autre question, ma sous-question, c'est à quoi les parents doivent s'attendre cet automne? Est-ce que les parents doivent s'attendre à une grève? Là, je sais qu'il y a des moyens de pression, que ce soit une grève générale, que ce soit une grève, des grèves rotatives ou peu importe. Est-ce qu'on doit s'attendre à des grèves vu l'état des négos?
Ben, deux choses. Premièrement, la question à savoir où est-ce qu'on est rendu aux tables de négo. Tout dépendant de la table, à la CSQ, on a du personnel en santé, on a du personnel collégial, du personnel au niveau du réseau scolaire aussi, toutes les catégories d'emploi. Donc, on avance, on est beaucoup dans ce qu'on appelle le périphérique, c'est-à-dire des enjeux qui ont pas beaucoup de caractère monétaire. Donc, on est beaucoup dans, des fois, de grands principes, d'enjeux très, très administratifs. Donc, l'ancienneté, ces éléments-là que vous mentionnez, on n'est même pas rendu à en discuter.
Fait que la grève s'en vient.
OK. Les salaires, l'offre est toujours la même. Maintenant, la grève. La question sur la grève, ben écoutez, nous, on s'en va en recherche de mandat. Pendant les 4 prochaines semaines, même peut-être un peu plus, là, en tout cas jusqu'au 13, donc, 4 semaines jusqu'au 13 octobre, l'ensemble des organisations du Front commun, c'est vrai pour la CSQ, mais c'est vrai pour la CSN, la FTQ et la PTS, ben ils s'en vont en recherche de mandat. Moi, je ne veux pas présumer de ce que les membres vont décider. Mais, parce que... démocratique, on leur présentait ça. Puis si on leur présente ce mandat-là, c'est parce qu'on pense que c'est à la hauteur de leur mécontentement, de leur demande, puis des besoins.
Puis c'est pour faire avancer les négos, ça, que vous...
Ben, c'est toujours ça. Ça fait toujours partie, ça. D'aller chercher le mandat, c'est toujours de pas vouloir l'utiliser. On se dit qu'en se disant qu'on va aller le chercher... Ben, je sais pas.
On va jase honnêtement. Ouais. Vous êtes élu au poste de président de la CSQ. Vos collègues le sont aussi. Oui. Il y a quelque chose dont on parle pas souvent, mais qui est le maraudage. Là, des périodes où vous pouvez essayer d'aller chercher des membres d'un autre syndicat. Mettons que vous représentez devant vos membres là, à la fin de votre mandat, puis vous dites, moi, là, j'ai évité la grève. C'est-tu vendeur, ça? T'sais, dans la mécanique syndicale, là, il me semble que dans le checklist, il faut être capable de dire, regardez ça, on a mis le gouvernement à genoux, on a sorti bonhomme en papier mâché, on a tapé des casseroles. Tu sais, je parlais avec des gens au gouvernement qui me disaient, essaie de trouver un renouvellement de convention collective avec les employés de l'État qui s'est fait sans aucune grève.
2010.
Et tout ça, c'est
2010.
Bon, OK, en tout cas, c'est rare. C'est-tu, je vais le dire comme je pense, c'est-tu winner pour un syndicat de signer sans avoir fait au moins un petit peu de grève. Là.
Moi, je pense pas. Je vous ai déjà entendu dire ça.
Oui.
Puis moi, je pense pas ça. Moi, je suis trop respectueux envers les membres que je représente pour simplement dire, là, on va en faire pour que tout le monde soit heureux puis avoir démontré qu'on est allé le plus loin possible. Par contre, les membres s'attendent à des résultats. Puis il faut qu'on leur donne des résultats. Et ça, là-dessus, j'ai une pression. J'ai une pression d'avoir des résultats et pas de simplement dire, bah, finalement, on est allé chercher le plus qu'on pouvait. Ou, finalement, on a évité de se faire prendre des affaires. Les membres sont plus là, là. Dans le secteur public, il n'y a plus rien à se faire prendre, puis les conditions sont déplorables. Donc, moi, je dois être capable de présenter, et nous, je dis moi parce qu'on parle à la CSQ, c'est vrai avec les gens avec qui je travaille, puis c'est vrai avec les autres organisations, on doit être en mesure de présenter une stratégie où on pense qu'on veut s'assurer que le gouverneur comprenne le sérieux, que la population comprenne le sérieux, les besoins. Si on peut l'éviter, là, moi, j'ai pas besoin de faire une grève pour être réélu. Par contre, j'ai besoin de m'assurer que les membres obtiennent de meilleures conditions de
travail.
Vous
savez quoi? J'ai l'impression que même le gouvernement se gouverne en fonction d'une mécanique qui inclut une grève. Ouais. C'est-à-dire ils ouvriront pas leur jour complet tant qu'il n'y aura pas une grève. Puis là, ils vont dire, bon, OK, on va vous donner ouais. leur marge de manœuvre.
Ça a toujours été comme ça.
Si c'est ben, la c'est responsabilité ça. C'est pour ça que comme je dis souvent, souvent, je dis qu'on aimerait ça faire autrement que le fameux psychodrame de la négociation du secteur ouais. public au Québec. Là. Mais est-ce que le gouvernement, présentement, négocie comme il y a 15 ans, comme il y a 20 ans? La réponse est oui. Là. Mais est-ce qu'il attend ça? Moi, je pense que la différence, peut-être, c'est que je pense qu'il ne s'attend pas à toute l'importance que donnent les membres à la prochaine ronde de négo, ou du moins, on dirait qu'ils la sous-estiment. Parce qu'on n'est pas dans ce jeu-là. Donne-nous 2 jours de grève, là, puis 2% de plus, puis on va régler. Là. Ça, c'est des paradigmes. Je sais que c'est un mot qui est bien intéressant, mais c'est un paradigme d'un autre temps. Parce que regardez ce qui se passe dans beaucoup de secteurs, là, syndicalement.
Ouais.
C'est qu'il y a combien de syndicats privés publics là, à travers le Canada qui font des négociations, qui obtiennent une entente de principe, qui la présentent à leurs membres, puis ils se font retourner de bord. Il y en a plein, là. Pourquoi? Parce que les membres ont des attentes. Et là, moi, c'est ces attentes-là, comme président de Centrale, c'est ces attentes-là, et je le dis à plusieurs reprises, la population, elle voit très bien ce qui se passe dans nos réseaux. Les membres le savent. On a un gouvernement avec M. Fitzgibbon, M. Boulet, M. Legault qui dit tout le temps que dans le secteur privé, les employés ont le gros bout du bâton pour négocier. Ben, les gens du secteur public se sentent exactement pareil.
OK. Parlant de gros bout du bâton, qu'est-ce que vous pensez des propos de votre collègue Magali Picard sur les femmes? Moi, j'ai tendance à comprendre un peu ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire qu'historiquement, les syndicats de profs, syndicats d'infirmières étaient un peu regardés de haut au Québec. Mm-hmm. On l'a vécu à l'époque de Lucien Bouchard, malgré tout le bien que je pense de lui. Êtes-vous d'accord avec elle en disant, peut-être que historiquement, les syndicats où il y avait plus de femmes, on a peut-être moins de pouvoir, contrairement à d'autres lobbies, d'autres syndicats de la SQ, syndicats de la construction, la Fédération des médecins spécialistes, etc., etc. Vous pensez quoi de ça?
C'est pas comme ça qu'elle l'a dit, par exemple.
Non, mais moi
je me demande si c'est pas parce qu'on est 78%.
Non, mais moi, j'ajoute que j'ai vu depuis 40 ans que je suis la politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, c'est sûr que, est-ce que Magali a voulu présumer qu'on avait un gouvernement misogyne? Je pense pas.
Non, mais il n'y a pas question de misogynie.
Mais
c'est
quand
systémique.
On regarde,
moi, j'ai l'impression que c'est un peu systémique.
C'est ça. Mais quand on regarde, là, moi, je représente à la CSQ, c'est 80% de femmes.
Mm-hmm.
Et ce sont beaucoup des gens issus là des fameux emplois qui jadis étaient des vocations.
Ouais, voilà.
Et
voilà.
La fameuse vocation.
Ouais. Et c'est comme si ça traîne encore ce boulet là de la vocation traîne encore. Alors que c'est plus ça du tout là. C'est un travail important.
C'est un travail qui demande
un certain type de personnes parce que ce sont des jeunes, ce sont des enfants, donc qui demandent donc de faire ce travail là de la façon la plus professionnelle que vous venez de le dire. Mais est-ce que qu'on regarde, ben c'est souvent les endroits où c'est le moins bien payé aussi. Donc, c'est normal que lorsque ma collègue de la FTQ, Magali, dit ça, ben, moi, je regarde les membres, puis il y en a beaucoup qui disent, est-ce que c'est à cause de ça?
Ben,
raison de plus pour que ce soit pas ça cette fois-là.
Mais pourquoi quand la SQ s'assoit, c'est 21%, on n'entend même pas parler ou à peu près, à peine. Puis quand vous autres, c'est compliqué. Ben, pourquoi?
C'est parce que nous autres, en plus, au lieu d'être juste 5 000 comme la SQ, là, c'est 600 000 dans le secteur public. Majoritairement des femmes quand même.
Mm-hmm.
Les chiffres sont gros. tu donnes 1%, le gouvernement dit, tu donnes 1%, c'est 600 millions. Mais en même temps, ça peut pas juste être ça l'argumentaire. Il faut que ça soit, il faut qu'on pense au futur. Il faut qu'on pense à l'année prochaine, à la prochaine rentrée, à dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est pour ça que cette négo-là est importante et qu'il y aura une manifestation à Montréal le 23.
Ouais, du monde là.
J'espère. Puis la population est bienvenue, hein. Parce que il va falloir que la population aussi nous appuie. Et savez-vous quoi? Est-ce qu'il y a plus les syndicats ou pas? Ça, la question, là, c'est correct. Je suis capable de vivre avec. Mais est-ce qu'il y a plus le personnel? Moi, je pense que oui.
Ah oui.
Et nous, ça donne qu'on les représente, ce personnel-là. Fait que bon. Finalement, on fait le lien. On fait le lien par défaut.
Monsieur Gingras, on a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Merci. Oui. Toujours merci. Un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, en espérant que la prochaine fois, on pourra parler du fait qu'on a réussi à éviter une grève.
C'est ce qu'on souhaite.
On se parlera en plein milieu de la grève. Merci beaucoup, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec.